Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Pour votre info, est présenté par Desjardins.
Cette semaine, la créativité québécoise prend d'assaut le reste du monde.
Montréal reste une plateforme intéressante, mais il n'y a pas la place ni le marché pour qu'on puisse tous travailler ici. Je dirais 75% de notre chiffre d'affaires vient de l'extérieur du Canada.
Rencontre avec deux artistes entrepreneurs qui ont le vent dans les voiles. Je m'appelle Laurent Therrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, re-bienvenue parmi nous. Le Québec est reconnu depuis longtemps, vous le savez, pour sa contribution assez exceptionnelle au milieu des arts, au milieu créatif. On pense naturellement au Cirque du Soleil, on pense à notre Céline nationale, à qui on souhaite prompt rétablissement par ailleurs. Mais derrière ces grands noms-là ou ces grandes entreprises-là, il y a tout un écosystème créatif qui multiplie les succès à l'étranger. Et parmi eux, je pense qu'il y a deux entreprises qui sont particulièrement à surveiller. Il y a Gentilhomme et il y a Daily tous les jours. On a invité leurs dirigeants à venir nous rencontrer. Ils sont avec nous en studio. Mouna Andraos, bonjour.
Bonjour.
Tu es la cofondatrice de Daily tous les jours. On va apprendre ensemble ce que c'est dans un instant. Thibaut Duvernay, bonjour.
Bonjour.
Tu es le fondateur de Gentilhomme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois en un peu plus de 80 épisodes, je pense, qu'on a autour de la même table deux entrepreneurs qui sont dans la même industrie et qui pourraient se considérer comme des compétiteurs. Est-ce que, dans un premier temps, vous vous considérez comme des compétiteurs?
Pas vraiment.
Non, moi non plus.
Je crois qu'on est dans le même écosystème,
ouais.
Mais pas encore.
Pas encore! Ah, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre, c'est ça?
Non, il pourrait y avoir des occasions, je ne sais pas, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même domaine.
D'accord. On va en apprendre plus sur vos deux entreprises dans un instant, mais de manière générale, parlez-nous du milieu créatif à Montréal. Les relations sont bonnes. C'est pour ça que vous vous connaissez. C'est parce qu'il y a cet écosystème-là, il est vivant, puis vous avez des occasions de vous rencontrer.
Oui, moi, je pense que c'est quand même une grande famille, Montréal. C'est évident qu'il y a de la compétition sur certains domaines, notamment dans les projets de plus privatisés ou de commandes. Mm-hmm. Mais ça reste une grande famille. Puis je pense que l'écosystème, il est quand même assez tissé, serré. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Mouna. Mais...
Oui, on est un peu dans le sous-milieu ou dans l'écosystème qui change de nom tous les ans. Là, en ce moment, on est un peu sous le label la créativité numérique,
okay,
pour ce que ça vaut. Et puis, c'est encore un milieu en émergence. Donc, à beaucoup d'égards, les succès des uns et des autres nous aident à définir puis démarcher ensemble.
Intéressant.
Donc, les succès de nos collègues nous aident à avancer.
On va commencer avec toi, Thibaut, si tu veux bien. Tu as fondé Gentilhomme en 2014. C'est un studio, tu dis, à la frontière entre la technologie et la magie, ou quelque chose comme ça, la magie et l'humain. Parle-nous un peu de vos projets. Parle-nous un peu de ce que vous faites. Décris-nous Gentilhomme.
J'ai fondé Gentilhomme en 2014, plus d'un point de vue de nécessité. Moi, je suis quelqu'un qui vient des Beaux-Arts. En fait, je viens de l'ingénierie informatique à la base et après, j'ai passé le concours des Beaux-Arts en France. Puis, je suis venu au Québec. J'avais une prof de scénographie qui était québécoise. Et le studio, pour moi, il permet de supporter... à la base, il permettait de supporter une pratique artistique, c'est-à-dire que toute ma vie, depuis 2007, j'ai fait des projets multimédia assez complexes en tant que réalisateur, mais j'ai aussi comme le cerveau producteur un petit peu. C'est-à-dire que je sais les fabriquer puis les faire arriver, ces projets-là. Puis ça demande quand même un savoir assez niché. Et donc, pour supporter ma pratique personnelle, vu que ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul, j'ai décidé de monter un peu une structure qui permettait à la fois moi de m'exprimer puis de développer ces projets-là. Aussi de capitaliser sur le savoir que j'avais et ultimement maintenant de donner un peu une plateforme qui permet de grandir puis qui permet aussi à d'autres créateurs de s'épanouir là-dedans.
Donc, Vos clients, ce sont des villes, ce sont des grandes infrastructures publiques, ce sont des tournées aussi de spectacles où vous mélangez plusieurs styles, vous mélangez la vidéo avec les expériences immersives, vous créez des environnements. Ça ressemble un peu à ce que Moment Factory fait, là. C'est le compétiteur direct de Gentilhomme.
Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, sur le secteur d'activité, mais je pense qu'on est quand même très différent de Moment Factory dans le sens que on a une approche qui relève plus de l'atelier d'artiste, même si on est avec les mêmes genres de clients puis maintenant un peu les mêmes genres de projets. En termes d'envergure de projet, c'est juste que notre approche, elle est plus boutique. Et je pense qu'on fait moins de projets à la fois, c'est tout le temps la même équipe. Et on a quelque chose de encore une fois, pour nous, le médium, ce n'est pas le message. Puis je pense que tous les gens qui sont en studio sont très hétéroclites, puis sont un peu couteau suisse. Mm-hmm. Et on approche chaque projet de façon très différente. Puis ça nous fait plaisir de faire à la fois des tournées ou des destinations ou des installations permanentes pour des villes.
Donne-nous une idée de certains projets récents.
Donc, on a fini... juste avant la pandémie, on avait fait une grande tournée mondiale de stadium pour Fall Out Boy, Weezer et Green Day. Donc là, c'était vraiment toute la tournée au complet. Puis là, la pandémie est arrivée. On a gagné un appel d'offres pour faire une expérience multimédia pour l'aéroport d'Orlando. Mm-hmm.
J'ai vu les images. D'ailleurs, ça, c'est un projet gagné contre Moment Factory.
Contre beaucoup de participants, mais oui, Moment Factory faisait partie des finalistes.
Ça doit quand même faire plaisir de se dire j'ai battu le grand frère de l'industrie dans un appel d'offres.
Oui, on est flattés, mais je pense que comment dire, c'est chaque projet est différent, puis on a des besoins différents, puis je pense qu'on a juste bien répondu aux besoins de ce projet spécifiquement.
Mais donc, j'ai vu l'installation à l'aéroport d'Orlando, c'est le fun parce que c'est d'immenses écrans finalement qui recréent les paysages du centre de la Floride, c'est ça?
Oui, en fait, l'idée, c'était de créer une identité, en fait, pour l'aéroport. Donc, il y avait déjà une architecte qui avait comme designé ce qu'on appelle des media features, donc trois sculptures gigantesques qui incluent des surfaces LED de très haute résolution. Mm-hmm. Et l'idée, on était passé un peu sur le concept de ce que les gens s'attendent à connaître de la Floride et surtout ce que les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire la diversité, la nature et tout ça.
Vous avez filmé notamment une envolée d'oiseaux qui a dû prendre une éternité à filmer parce que ouais. La caméra doit absolument être fixe, donc il faut attendre finalement que les oiseaux s'envolent.
Mais il y avait beaucoup de contraintes, oui, parce qu'on s'était donné des contraintes qui, de perspective, en fait, pour que ça donnait l'illusion que c'était une fenêtre vers, en fait, un autre monde. Et donc, pour faire ça, effectivement, la caméra doit être à un certain endroit. Puis oui, en plus, on shootait des choses, on filmait des choses qui étaient de l'ordre du documentaire, mais avec des contraintes techniques très compliquées. Mm-hmm. Oui.
Et donc, quand on dit que vous n'êtes pas des compétiteurs directs Gentilhomme et Daily Tous les Jours, c'est que Mouna, donc, t'as cofondé Daily Tous les Jours en 2010. Vous êtes... je ne sais pas si cette année qu'on te parle de ce projet-là, mais ça reste quand même un projet emblématique. Vous êtes derrière les balançoires à la place des festivals. Ce projet-là a fait le tour du monde. Il a tourné dans je ne sais pas combien de villes. En quoi est-ce que vous êtes différent de ce que fait un gentilhomme?
Je pense qu'on a tous les deux des clients un petit peu similaires, en tout cas une partie de la clientèle de Gentilhomme, notamment à ce qui a trait avec l'espace public. Daily Tous les Jours, on a un studio d'art et de design. Notre mission, c'est de réfléchir à des façons de connecter les gens entre eux et avec leur environnement, créer des opportunités pour générer des conversations, tisser des liens et ultimement renforcer les communautés et leur résilience au travers de ces expériences-là. Mmh. Donc, les 10 dernières années, on a eu la chance de proposer toutes sortes d'invitations à devenir un participant actif dans son environnement et puis ultimement à réinventer un peu le vivre ensemble puis la ville.
Donc, on interagit avec vos œuvres d'art, on les vit, on est à l'intérieur de l'œuvre dans un certain sens. Ça répond, j'imagine, à un besoin de plus en plus fort qui est de se retrouver quelque part puis de faire quelque chose à l'extérieur, de rendre les villes plus vivantes, finalement.
C'est certain que ça s'inscrit dans une réflexion sur comment on vit ensemble dans un contexte urbain. On sait qu'on voit une augmentation de la densité urbaine partout dans le monde, ouais. Des réflexions sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. En Amérique du Nord, en particulier, depuis le début de Daily, on a vu beaucoup de villes, notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis, là où on travaille beaucoup, repenser la valeur de leur centre-ville qui avait été abandonnée dans les années 80-90 pour des modèles d'urbanité qui impliquaient qu'on travaille travaille au centre-ville, on s'en va le soir.
Dans la banlieue.
Dans la banlieue, avec de nouveaux modèles de résurgence économique, sociale, etc., associés à tout ça. Donc, avec ça vient une réflexion sur mais qu'est-ce qu'on fait dans l'espace public ? Comment on remplace peut-être le modèle aussi classique, commercial, d'être là pour du shopping seulement, etc., etc. Et puis, dans un contexte de pandémie aussi, ça a été intéressant de voir le rôle et la place que l'espace public a pu jouer et de continuer à avancer là-dessus.
Je vais te proposer qu'on aille écouter un extrait parce que bon, vos projets sont vivants, alors on peut les écouter, on peut les entendre. On va aller écouter un extrait d'un projet que vous avez réalisé en Arizona, dans la ville de Mesa. Décris-nous ce qu'on est en train d'entendre.
Alors, vous entendez le résultat d'une série d'interactions de gens qui marchent, certains qui s'arrêtent, certains qui font juste passer, sur un plancher musical qui réagit aux ombres des gens. L'Arizona, c'est le deuxième endroit le plus lumineux et le plus ensoleillé au monde. On a voulu travailler sur cette ressource-là qui était disponible, qui était le soleil, et réimaginer un peu l'infrastructure urbaine. Beaucoup de nos projets ont dit que c'est un peu des infrastructures pour l'âme humaine, en anglais, infrastructure for the human spirit. Alors, il faut qu'on commence à repenser un peu à ces infrastructures pour qu'elles encouragent ça. Donc, tu entends des voix qui émergent de haut-parleurs intégrés à l'intérieur du pavé, un pavé rose et bleu, qui, quand tu passes, réagit et t'invite à soit t'arrêter.
C'est fascinant, puis juste de l'entendre, je veux dire, on se sent sur place, c'est super intéressant. Félicitations pour ce beau projet-là.
Merci.
Ce que je trouve intéressant, c'est que dans les deux cas, vous êtes des directeurs de création. C'est-à-dire que vous vous considérez, dites-moi si je me trompe, d'abord comme des artistes, n'est-ce pas?
Oui, oui, tout à fait.
Mais vous êtes aussi à la tête d'organisations qui ont des besoins de rentabilité, puis qui ont besoin de grandir si elles veulent continuer d'exister. Comment vous vivez avec ça? Est-ce que quand Thibault, tu dis « mon entreprise répondait uniquement à un besoin personnel de créer ou de continuer mon art », est-ce que la portion business de ton travail, c'est quasiment comme un mal nécessaire?
Non, mais moi, je ne vois pas ça comme un mal nécessaire. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Le côté business ne me dérange absolument pas. Pour moi, c'est synonyme de liberté, en fait. Créative aussi, parce que j'ai pas du tout de problème à faire une ligne entre des projets de commande et des projets gentilhommes. Donc, au même titre qu'on peut faire des aéroports, là, on vient de finir l'aéroport de Nashville, je peux trouver autant de plaisir et aussi, après ça, réinjecter des profits de projets de commande pour faire des projets de R&D ou comme pop qu'on fait à l'intérieur d'un point de vue créatif. Mais je vais avoir du plaisir à faire les deux. Pour moi, c'est pas l'un ou l'autre.
Mona?
Oui, j'aime bien que tu utilises le mot liberté. Je pense que pour nous, ça a été la même chose. Avec mon associé Mélissa Mangia, on a décidé au début qu'on voulait travailler et fonder une Inc. Parce qu'on pense que ben, l'art, la créativité, le design, on peut également générer de la valeur. On peut être autonome aussi au niveau de nos revenus et de ce qu'on veut faire avec tout ça.
Mais manifestement, il y a une demande pour ce que vous faites. Il y a de l'intérêt de la part du client final, là, le consommateur, parce que vous faites de beaux projets qui sont intéressants, mais il y a un modèle d'affaires qui fonctionne derrière ce que vous êtes en train de créer.
On crée le modèle d'affaires tous les jours.
D'accord avec ça.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Souvent, pendant longtemps, on a dit le plus beau et ou le plus compliqué projet qu'on est en train de réaliser, mais c'est le studio finalement. Essayer mais de relever ce défi-là, de dire qu'on est capable de faire une entreprise qui est relativement rentable, qui nous permet de vivre, de payer des salaires à toutes sortes de personnes autour de nous, et en même temps, à l'intérieur duquel on est libre de faire ce qu'on veut, et de créer et de développer des projets. Donc,
Est-ce que tu te sens comme ça aussi, Thibault? C'est-à-dire
complètement.
Le plus gros défi, c'est la business en soi?
Le plus gros défi, c'est de créer un modèle d'affaires pour les œuvres artistiques. Je suis d'accord avec ça. Puis c'est pour ça que un peu la différence, je pense, entre nous, c'est que on a plusieurs modèles d'affaires à l'intérieur de la compagnie, dans le sens que les projets de commande, c'est facile de les garder rentables puis de les scaler. Puis les projets artistiques et de pays, de IP, pardon, de propriété intellectuelle, c'est plus compliqué parce que, surtout si tu ne veux pas être dépendant d'appels d'offres ou de bourses. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement.
J'aimerais vous amener sur le terrain de vos succès à l'international parce que, bon, vous êtes une belle source de fierté. Vos projets sont vus par des audiences sur tous les continents. En même temps, je suis curieux de savoir si c'est un choix ou pas, au sens où il y a près de la moitié, quand on regarde les statistiques, des revenus créatifs québécois qui proviennent de l'extérieur, qui proviennent de l'international. Est-ce que le modèle d'affaires, il fonctionnerait si on vous confinait aux frontières du Québec ou du Canada? Ou l'international, finalement, c'est pas tellement un choix.
Non, nous, c'est 90 % et plus de notre chiffre d'affaires, c'est à l'international. Donc, sinon, ça ne fonctionnerait pas. Mon client québécois, c'est Charlotte Cardin. Puis, c'est un peu ça.
C'est à peu près tout.
Ouais. Ouais, non, c'est, ouais. Ben, c'est la même chose pour nous. Je pense que Montréal et le Québec restent une plateforme d'exploration intéressante, un laboratoire, un endroit où on peut travailler. Il y a ces ressources et cet écosystème dont on parlait au début, mais il n'y a pas la place ni le marché pour qu'on puisse tous travailler ici. Donc, je pense dès le début, dans l'ADN du studio, on a commencé à exporter ce qu'on faisait. Et nous aussi, je dirais 75% de notre chiffre d'affaires vient de l'extérieur du Canada. Avec la pandémie, on a shifté un peu nos focus, mais ça reste une réalité avec laquelle on doit travailler.
En même temps, je me dis, bon, il y a cet écosystème-là dont on a parlé. On est manifestement un terreau fertile pour les entreprises créatives. Il se passe quelque chose ici. Vous le décrivez comment, ça? C'est quoi l'avantage concurrentiel du Québec sur le plan créatif? Pourquoi tant de succès sur le plan créatif ici?
Moi, je pense qu'on est tous un peu des enfants du Cirque du Soleil, en tout cas moi, dans mon écosystème.
Ouais, mais moi, je dis toujours un peu héritage post-expo 67.
Voilà. On remonte encore plus loin.
Ouais, encore plus loin, qui a donné naissance à des projets comme la SAT, comme Mutec, ouais, comme Electra, avec Isea. Il y avait tout le volet un peu culture, création numérique qui était là. Il y a eu le CIR qui a, moi je dis, généré des ingénieurs qui ont appris à dire oui.
Ah, c'est bon ça.
Et un écosystème de fabricants qui savent faire aussi des one-off, là. C'est pas de l'industrialisation nécessairement. Fait que tout ça ensemble a fait qu'on était aussi à Montréal à un certain moment donné qui avait besoin de se réinventer, mm-hmm, qui devait sortir d'une crise économique importante, qui devait expérimenter, prendre des risques. Donc, les grands festivals.
Je pense que les talents aussi, pour moi, la danse contemporaine, la musique, c'est justement ce que tu disais, les biennales, les compagnies. Je pense qu'il y a ce mélange de technologie, jeux vidéo, art humain. Mm.
Tu parlais dans la recherche, quand tu parlais avec notre chercheuse, d'éthique de travail. On travaille bien.
Mais oui, vraiment.
Ouais. Pourquoi?
Je sais pas. mais tu le vois vraiment. Je le disais même pour les tournages. Moi, quand je vais tourner à Los Angeles, je rêve d'avoir mon équipe québécoise avec moi.
Ah
oui? Oui, oui. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a une côté de débrouillardise, de fierté, de vouloir bien faire les choses, d'avoir le souci du détail qui est très présent. Ouais. Mm.
Thibaut, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a marqué. Tu dis oui, grandir, oui, le potentiel de scalability, mais pas à tout prix. Tu as dit dans des entrevues, on va se rendre à peu près à 50 employés. Puis.
Ouais, mais je change ça chaque année. Là,
ça monte ou ça descend?
Ça monte. la nouvelle limite est à combien, là?
Écoute, la limite, elle est de ne pas avoir de ressources humaines.
OK, ben attends, on va mettre ça en contexte. Alors, tu dis, je veux pas trop grandir, on va garder ça autour de, que ce soit 50, 75, 100, ça change rien. Qu'est-ce qui se passe quand on devient trop gros?
Ben, quand on devient trop gros, on perd la liberté qu'on a créée parce que la balance, elle fonctionne comme plus. À un moment donné, ça devient un bateau qui est beaucoup plus lourd à bouger, qui est moins réactif, qui a perdu, selon moi, son dynamisme.
Mm. Mais ça, penses-tu que c'est une question de nombre d'employés ou c'est une question de culture ou de vision d'entreprise? Parce que, je veux dire, il y a certains gros joueurs. Le Cirque du Soleil en est un bon exemple. Là. Bon, là, ils ont eu deux, trois années difficiles, mais pré-pandémie, c'était une immense entreprise.
Oui, mais encore une fois, c'est très personnel. Peut-être que c'est juste moi, ma capacité à vouloir gérer, à pouvoir gérer un bateau comme ça, puis à être heureux, tu vois. Mais
tu ne veux pas aller trop gros.
Non, puis là, on va déménager le studio. Il est fait pour 50 maximum. On a signé pour 10 ans, ça va être ça. Puis là, je me dis que c'est ça. Mais en même temps, je suis super heureux avec mon équipe. J'ai l'équipe que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je trouve que tout le monde est incroyable et très talentueux. Et je me sens super bien là-dedans. Et ça ne me pose pas de problème encore. Et je ne trouve pas que ça devienne un problème. Mais...
Mm-hmm. Mouna, est-ce que tu sens cette pression-là aussi de dire, bon, oui, il y a des impératifs financiers, puis il y a une volonté probablement de créer plus de projets ou des projets plus gros? Mais est-ce qu'il y a une limite où on se dit là c'est trop, ça ne peut plus grandir de la même façon?
Oui, c'est certain qu'il y a des enjeux de gestion. Il y a des enjeux aussi de cette liberté dont on parle, à savoir à quel moment on est obligé de prendre des projets juste parce qu'il faut filer la machine, mm-hmm. et à quel moment on prend les projets parce qu'on a envie de les faire. Mais je pense qu'on est dans un contexte aussi où même cette notion de croissance, il faut la remettre en question. Est-ce qu'une entreprise doit forcément croître à tout prix? Oui, les 50 dernières années, les 100 dernières années, depuis là, on est dans un modèle évidemment où c'est le seul chemin en avant. Mais on a besoin aussi de commencer à réfléchir à des alternatives.
Je t'invite, Mouna, on a fait une émission il y a quelques semaines là-dessus, justement, avec un brasseur, le propriétaire d'une distillerie qui est dans le Bas-Saint-Laurent. Ils font du gin qui s'appelle le gin Saint-Laurent, qui est
très bon.
Pas disponible à la SAQ. Puis c'est exactement ce qu'il dit dans son entrevue. Il dit, moi, j'ai, au-delà d'un certain seuil, j'ai juste pas envie, puis j'ai pas besoin. C'est ça qui est intéressant.
Mais aussi, on a besoin de réfléchir à d'autres façons aussi, d'évoluer économiquement comme compagnie, de pouvoir rester en santé, de choisir quelles sont les choses qui sont importantes pour nous, quels sont les défis auxquels on fait face. Et la croissance, c'est un scénario, disons, pour continuer à, je pense, grandir.
Parlez-nous de vos projets d'abord. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez présentement puis qui sont publics, dont vous pouvez nous parler, mais qu'est-ce qui vous occupe en ce moment, tous les deux?
Nous, on vient de livrer un autre aéroport pour Nashville qui va ouvrir dans 2 jours.
Wow!
Oui, c'est vrai. On est vraiment très fiers. C'est un très, très beau projet. Et en parallèle de ça, on a des discussions avec des grandes compagnies d'amusement, on peut dire, si on peut dire.
Des parcs?
Des parcs, oui. C'est des projets aussi qui m'intéressent beaucoup pour ce qui est des projets de commande. Puis après, pour ce qui est des projets plus personnels à la compagnie, on développe des genres d'œuvres hybrides, tangibles et digitales qui sont très basées sur le jeu en ce moment.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
C'est dur à expliquer sur un podcast.
Mettons qu'à l'audio, t'essayes de nous l'expliquer.
On essaie de ramener des processus d'interaction qui sont très primitifs et qui sont très tactiles avec des objets qui ne sont pas de l'électronique et qui permettent d'interagir avec des interfaces qui sont beaucoup plus familières et de l'ordre de vraiment plus du jeu vidéo dans leur format. On utilise beaucoup une technologie qui s'appelle Unreal Engine, qui est un gros moteur de jeux vidéo et dont en fait le siège social pour les projets spéciaux est à Montréal. Donc ça aussi, je pense que ça aide beaucoup à penser à ça. Et on aime bien ces problématiques-là, de voir comment on utilise des choses qui sont à prime abord utilisées pour un usage, puis voir comment on peut les détourner, puis faire autre chose, puis éventuellement faire des modèles d'affaires autour de ça, les monétiser, puis voir comment on peut
très intéressant
développer ça.
Mouna, qu'est-ce qui vous occupe?
Nous, on livre cette année plusieurs gros nouveaux projets. Certains, des nouvelles installations dans le sud de l'Ontario, un petit peu en dehors de Toronto. Un projet à Nashville aussi, en dehors de Nashville, au printemps.
Qu'est-ce qui se passe?
Faire de la musique. Quelques projets en Europe, en Hollande et en Allemagne, et puis l'Australie. Donc, pas mal de nouvelles créations qui sortent cette année, qui devraient être excitantes et intéressantes. Puis, on essaye de renouer un petit peu au Québec, à Montréal en particulier. On commence à travailler un peu avec la SDA d'Angus. On est un peu excités aussi, des fois, de pouvoir faire des projets chez nous.
Ben, puis, pouvoir aller les voir après un samedi, pas être obligé de prendre un vol pour aller les voir. C'est
exact.
Intéressant. Mouna Andraos, je rappelle que tu es la cofondatrice de Daily Tous les jours. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Thibaut Duvernay de Gentilhomme, merci aussi.
Merci beaucoup.
Et puis bon succès à vous deux. C'est une grande fierté de pouvoir vous suivre dans vos projets à l'international. Merci.
Merci.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean.
Salut Jimmy.
Salut Laurent.
On va parler d'habitation et de logement. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité depuis quand même un certain temps. On sait qu'il en manque des logements au Canada, mais Desjardins vient de publier un nouveau rapport. Vous avez publié un nouveau rapport dans lequel on apprend que finalement, il en manque beaucoup plus qu'on l'imaginait.
Oui, absolument. Puis, ce chiffre-là qui manque, c'est 100 000 au Canada. Donc, 100 000 logements qu'on va devoir construire de plus si on espère pouvoir ramener l'abordabilité à un niveau acceptable. Donc, on sait qu'on a une stratégie d'immigration qui est très agressive au Canada. Et donc, ça fait en sorte que on a besoin d'espace pour loger les nouveaux arrivants dans une situation où le marché immobilier est déjà très serré, donc beaucoup de difficultés à trouver du logement, soit au niveau de la propriété où l'accessibilité est fortement érodée par la hausse des taux d'intérêt, et ou encore du côté du locatif où on a vu vraiment une dégradation de l'accessibilité, une hausse des loyers. Mm-hmm. Il y a un manque de logements criant depuis longtemps. Mais effectivement, ce qu'on a fait, c'est on a passé ça dans un modèle qui est capable de nous quantifier vraiment combien ça prendrait de logements pour être capable d'accommoder les nouveaux arrivants. Puis au Canada, c'est 100 000. C'est une augmentation de 50 % par rapport au rythme auquel on construit en ce moment. Donc, c'est énorme. Wow. Puis le problème avec ça, Laurent, c'est que dans une récession, ce qu'on voit, c'est l'inverse. On voit la construction diminuer, mm-hmm. étant donné les problèmes de... En ce moment, on a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, mais les coûts de financement qui augmentent, l'incertitude, la baisse de confiance des constructeurs. Donc là, en ce moment, il y a une tendance à la baisse depuis le milieu 2022 sur les constructions neuves. C'est inquiétant pour l'abordabilité future.
Oui, puis je pense que le chiffre qui marque, c'est ça. C'est bien beau de dire qu'il en faut 100 000, mais compte tenu qu'on va en construire 210 000 cette année au Canada si les prévisions se poursuivent, bien, c'est ça. C'est comme s'il fallait construire la moitié de tout ce qu'on a déjà prévu en plus pour résoudre ce problème-là. D'autant plus que la demande est concentrée dans deux provinces qui voient des prix de l'immobilier élevés depuis plusieurs années, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Rien pour aider, finalement.
Exactement, parce que c'est dans ces marchés-là, effectivement, où il y a eu une dégradation, une forte dégradation de l'abordabilité, une très forte augmentation des prix. Donc, si on avait un scénario où l'immigration, les pourcentages d'attraction des immigrants par province retournaient à ce qu'on avait, par exemple, en 2016, ce serait moins pire. Donc, à ce moment-là, on verrait plus d'immigrants aller, par exemple, en Alberta ou dans les prairies plus particulièrement. Et à ce moment-là, ça mettrait moins de pression parce que c'est des provinces où il y a une meilleure capacité d'accueil au niveau du parc immobilier. Mm-hmm. Mais si, effectivement, on continue de voir des immigrants converger vers l'Ontario, la Colombie-Britannique, entre autres, des marchés où c'est déjà très serré, au niveau de l'abordabilité, ça n'aidera certainement pas la cause quand on regarde le Canada en entier.
Donc, ça veut dire quoi? À moyen terme, des logements toujours un peu plus chers, finalement?
Des logements un peu plus chers aussi, ce que je crains, moi, c'est que de plus en plus, on a de la difficulté à attirer des immigrants parce que finalement, on va se buter aux limites physiques. Là. Si on n'est pas capable de loger ces nouveaux arrivants-là, on va se buter aux limites physiques de ce modèle d'affaires-là. Et Dieu sait qu'on a besoin d'immigrants, étant donné notre vieillissement démographique. Et exactement, la pénurie de main-d'œuvre, puis la nécessité aussi dans les années futures là, de soutenir les dépenses en santé. Donc, ça va prendre des payeurs de taxes. Là. C'est un enjeu qui est vital. Or, ça ne bouge pas assez vite du côté de la construction. Je pense que c'est ça qu'on peut dire, ça ne bouge pas assez vite. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Ça va être encore plus difficile dans un contexte de récession, puis avec des taux qui sont élevés.
Le message est clair. En tout cas, j'espère qu'il sera entendu parce que c'est vrai que c'est un problème qui va devenir de plus en plus important. Alors, merci, puis on se reparle le mois prochain.
Grand plaisir, Laurent.
« Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tinguy. Et nos épisodes sont enregistrés à Montréal, au studio Edgar. Notre technicien cette semaine est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de balado de Cogeco Media, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Thérien. Merci d'avoir été avec nous et on se reparle la semaine prochaine.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.